Pizzi présente Le vieux qui voulait sauver le monde de Jonas Jonasson. Lu par Benoît Hallemann. Indonésie. Une vie de luxe sur une île paradisiaque remplirait n'importe qui de félicité. Mais Allan Carlson n'était pas n'importe qui et n'avait pas formé le projet de le devenir lors de sa 101e année d'existence. Pendant un temps, il avait été satisfait de s'asseoir sur un transat à l'ombre d'un parasol et de siroter des boissons de toutes les couleurs. En particulier en compagnie de son meilleur et seul ami, l'incurable petit escroc Julius Johnson. Pourtant, le vieux Julius et l'encore plus vieux Allan se lassèrent bientôt de leur unique occupation, profiter des millions rapportés de Suède dans la fameuse valise. Il n'y avait rien de mal à cela, non, mais c'était devenu si monotone. Julius loua un yacht de 150 pieds, équipage complet compris, afin qu'Allan et lui puissent s'installer tous deux sur le pont avant, une canne à pêche à la main. L'idée aurait été distrayante si seulement ils avaient aimé la pêche à la ligne, ou le poisson. Résultat, les sorties en yacht leur offrirent de reproduire au large ce qu'ils avaient déjà perfectionné sur la plage, à savoir rien. Puis, Allan se débrouilla pour faire venir Harry Belafonte des États-Unis, afin qu'il chante trois chansons à l'anniversaire de Julius, tant qu'on parle de trop d'argent et de rien à faire. Harry resta à dîner, bien qu'il n'ait pas été payé pour cela. Dans l'ensemble, ils passèrent une agréable soirée qui brisa la routine. Allan expliqua avoir choisi Belafonte en raison du goût de Julius pour la nouvelle musique de jeunes. Julius apprécia le geste à sa juste valeur et s'abstint de mentionner que le présent artiste n'était plus jeune depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais comparé à Allan, ce n'était qu'un enfant. Même si le passage à Bali de la star mondiale n'était qu'une tache de couleur dans l'insipidité de leur existence, il allait bouleverser profondément les vies d'Allan et de Julius. Pas en raison des chansons interprétées par l'artiste, non, mais à cause de l'objet non identifié qu'il avait apporté et dont il ne pouvait détacher les yeux pendant le petit déjeuner précédant son départ. C'était une plaque rectangulaire noire avec une pomme entamée sur une face et, sur l'autre, un écran qui s'illuminait quand on le touchait. Harry tapotait encore et encore. De temps à autre, il poussait un grognement avant de pouffer de rire, pour ensuite maugréer de nouveau. Allan n'avait jamais été du genre à se mêler de ceux qui ne le regardaient pas, mais il y avait des limites. Loin de moi l'idée de fouiner dans vos affaires, mon jeune Belafonte, mais puis-je vous demander ce que vous faites? Est-ce qu'il se passe des choses dans ce... là-dedans? Harry Belafonte comprit qu'Allan n'avait encore jamais vu de tablette et fut tout content de lui faire une petite démonstration de son usage. L'appareil avait le pouvoir de montrer ce qui se produisait dans le monde, ce qui avait déjà eu lieu, et, avec plus ou moins de fiabilité, ce qui allait arriver sous peu. En fonction de l'endroit où on appuyait, il apparaissait des images et des films de tous les genres imaginables, et quelques-uns inimaginables. Si on touchait certains symboles, de la musique s'élevait. D'autres encore, et la tablette se mettait à parler. À en juger par sa voix, c'était une femme, Siri. Après le petit déjeuner, Belafonte prit sa valise cabine, sa tablette noire et le chemin de l'aéroport. Allan, Julius et le directeur de l'hôtel agitaient les bras en signe d'adieu. À peine le taxi de l'artiste fut-il hors de vue, qu'Allan se tourna vers le directeur et lui demanda de lui procurer une tablette comme celle d'Harry Belafonte. Le contenu varié avait diverti le centenaire, ce qui était plus qu'on ne pouvait dire de beaucoup de choses. Le directeur rentrait tout juste d'une conférence à Jakarta, dédiée au service hôtelier, où il avait appris que la tâche principale du personnel n'était pas d'exaucer les désirs de la clientèle, mais de les anticiper. Ajoutons à cela que messieurs Carlson et Johnson étaient deux des meilleurs clients de l'histoire du tourisme de Bali. Rien d'étonnant donc à ce que le directeur fournit dès le lendemain une tablette tactile à Carlson, ainsi qu'un téléphone mobile en bonus. Afin de ne pas se montrer ingrat, Alan garda pour lui que tous ceux qui l'auraient voulu contacter étaient morts depuis belle lurette, 50 ans ou plus. Sauf Julius, bien sûr, qui n'avait pas de téléphone pour prendre ses communications. Toutefois, il y avait une solution. « Tiens, voilà pour toi, » dit Alan à son ami. « C'est un cadeau du directeur, mais je n'ai personne à appeler à part toi, et comme tu n'as aucune manière de me répondre. » Julius le remercia pour sa générosité, sans faire observer à Alan qu'il ne pouvait toujours pas s'appeler, mais à présent pour la raison inverse. « Ne le perds pas, » lui recommanda Alan. « Il a l'air cher. » C'était mieux avant, quand les téléphones étaient accrochés au mur. On savait toujours où ils se trouvaient. La tablette noire devint le joujou préféré d'Alan. En plus, elle ne lui coûtait rien, car le directeur de l'hôtel avait demandé aux employés de la boutique d'informatique de Denpasar de paramétrer la tablette et le portable selon les règles de l'art. Cela signifiait, entre autres, que les cartes SIM se connectaient au réseau de l'hôtel, lequel vit ses frais téléphoniques doublés sans que personne comprenne pourquoi. Le centenaire assimila vite le fonctionnement du curieux appareil. À peine réveillé, il l'allumait pour voir ce qu'il avait raté pendant la nuit. C'étaient les piquantes petites informations des quatre coins du monde qui l'amusaient. Comme l'histoire de cette centaine de médecins et infirmières napolitains qui s'étaient relayés pour poinçonner les cartes de leurs collègues afin que tous soient payés sans être venus travailler. Ou celle des politiciens roumains, dont un si grand nombre avait été arrêté pour corruption que les prisons du pays étaient à présent surchargées. Et la solution de leurs confrères encore en liberté, légaliser la corruption pour éviter de devoir construire de nouveaux établissements pénitentiaires. Alan et Julius établir une nouvelle routine matinale. Auparavant, Alan entamait le petit déjeuner en se plaignant des ronflements sonores de son ami de l'autre côté de la cloison. Désormais, il commençait de la même manière, puis racontait ce qu'il avait lu sur sa tablette depuis la fois précédente. Au début, Julius apprécia ses brefs bulletins d'information, ne serait-ce que parce qu'il détournait l'esprit d'Alan de son sommeil bruyant. Il adora l'idée des Roumains d'autoriser les comportements illégaux. Imaginez comme il serait facile de vivre en escroc dans une société comme celle-là. Cependant, Alan écarta vite cette pensée. Par définition, une escroquerie rendue légale n'en est plus une. Julius, qui aurait bien quitté Bali pour s'établir à Bucarest, fut découragé. Pour le consoler, Alan ajouta que la population avait défilé pour protester contre les projets des politiciens et fonctionnaires. Le Roumain de la rue n'avait pas la même philosophie que ses dirigeants. Selon son raisonnement, quiconque se rendait coupable de vol devait finir sous les verrous, indépendamment de son titre ou de sa fonction, qu'il y ait encore de la place en prison ou non.